au congrès virtuel de FP 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. Le FP est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Notre conférencier de ce soir va nous développer le thème EFT et les troubles de l'attachement. Mais qu'est-ce que précisément un trouble de l'attachement? L'attachement est un vaste domaine qui n'est pas en soi une pathologie, mais qui peut conduire à diverses pathologies. Notre conférencier va nous présenter comment aborder idéalement ce sujet, comment repérer les troubles de l'attachement et comment les accompagner, et plus précisément, bien sûr, avec l'EFT. Les troubles de l'attachement ne sont pas toujours bien identifiés par les thérapeutes ou les particuliers qui ne mesurent pas toujours qu'ils peuvent aussi bien se cacher derrière une dépendance aussi banale que fumer ou encore une phobie des araignées. Comment se prépare-t-on en tant que thérapeute à ce type de séance? Notre conférencier de ce soir s'est particulièrement intéressé à ce sujet qui le passionne. Depuis des années, il étudie ce processus d'attachement qui permet à l'enfant de se sentir en sécurité, protégé et confiant. Il nous fera une démonstration également sur la façon de procéder en EFT pour ces troubles précisément. Des centaines de personnes ont déjà pu bénéficier de son expertise. Psychothérapeute, formateur, superviseur, cofondateur de Thérapeutia, président de l'Association francophone de psychologie énergétique clinique, spécialiste de l'accompagnement des traumas complexes et des troubles de l'attachement, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Vautier. Bonsoir Yves.
Bonsoir Maria.
Et bonsoir à tous nos auditeurs. Merci à toi Yves d'être là. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un trouble de l'attachement?
Un trouble de l'attachement, c'est un petit défaut dans notre cuirasse. Donc en gros, c'est une forme d'insécurité qui s'est souvent installée, pour ne pas dire toujours installée, lors de la prime enfance. À savoir que dans notre environnement, juste après notre naissance, et quelquefois même déjà avant la naissance, en fonction des conditions de naissance ou de gestation que nous avons eues pendant la grossesse, eh bien l'enfant n'a pas reçu les nourritures affectives dont il avait besoin. Et donc, ça a créé un sentiment d'insécurité. Ça peut venir de différents aspects. Ça peut venir, par exemple, d'une trop grande absence des parents, le père, la mère, ou au contraire, d'une mère ou d'un père qui est un peu trop étouffant, qui est trop sécurisant, ce qui va créer aussi une dynamique inverse. Ça peut aussi être dû à des événements de vie un peu difficiles, un peu particuliers, comme un deuil, un abandon, des divorces, des séparations, des disputes tout simplement dans l'environnement, mais aussi, par exemple, des situations où l'enfant n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Il y a une session que vous retrouvez sur mon site sur YouTube où le client exprime le fait que dans sa famille, elle ne pouvait exprimer aucune émotion, ni négative, mais même pas positive. Elle ne pouvait même pas sourire ou rire. Donc, ça peut évidemment provoquer toute une série de comportements qui vont créer de l'anxiété, une angoisse de fond. Et les troubles de l'attachement donc, se rattachent à cette notion d'insécurité. Il y en a de plusieurs ordres.
D'accord. Oui, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il y a une classification? Est-ce qu'il y a différents types de troubles de l'attachement?
Oui, donc au niowau théorique, ça vient de John Bowlby. John Bowlby a fait plein d'expériences. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir des vidéos avec John Bowlby qui a fait des expériences avec des canards, par exemple, où on le voit avec des petits poussins, suivi par une tribu de petits canards. Parce que chez le canard, par exemple, on s'attache à la première personne, à la premier animal vivant que l'on croise.
Oui, mais ça vaut pour les volailles. C'est pas vrai pour les humains, Yves.
Et c'est tout aussi vrai pour les volailles que pour
les humains. Serions-nous tous des poules? Et des poules?
Ça dépend. ça dépend de quel côté de la route tu es. Tu te souviens, il y a une excellente image que j'aime beaucoup. C'est, tu as une poule d'un côté de la route qui dit, dis, comment tu fais pour aller de l'autre côté de la route? Et l'autre poule répond, mais bah, pourquoi tu me demandes ça? Tu es déjà de l'autre côté de la route. Tu vois?
Ah. Ouais.
Donc l'attachement, c'est vraiment ça. C'est un besoin de sécurité affective et de reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire que l'on nomme les émotions, qu'on nous apprenne. C'est l'éducation émotionnelle, la psychoéducation émotionnelle. Mmh. Et dans beaucoup de, soit de culture, soit de famille, on nous apprend pas ça. Hein. Les générations un peu plus âgées, c'était pour être fort, il faut pas pleurer, soit un homme ou soit une femme, il faut porter, il faut supporter, etc. On pouvait pas montrer ses émotions. Et on a certaines cultures où c'est encore tout à fait d'actualité. Hein. Si vous allez en Grande-Bretagne, par exemple, on ne peut pas trop montrer ses émotions.
Oui.
Si vous êtes dans d'autres pays européens, c'est encore la même chose. Donc, au niveau de l'attachement, cette insécurité, en général, on estime qu'il y en a de trois sortes différentes, de trois types différents. On a l'attachement insécure anxieux. Et l'attachement insécure anxieux, c'est vraiment la personne qui va être anxieuse dès que l'être aimé disparaît, sort du champ de vision. Donc, c'est un peu ce qu'on décrirait comme l'abandonnique. C'est la personne qui va avoir besoin d'être rassurée tout le temps par rapport à son amour, à l'affection, aux émotions, qui va vous envoyer, par exemple, 20 SMS, vous venez à peine de sortir de la maison, vous avez déjà un SMS en disant « je t'aime », etc. Donc, c'est quelqu'un qui va, quelquefois, vous exprimer ses émotions pour simplement pour recevoir l'image en retour que vous aussi, vous l'aimez. Donc, plutôt que de dire « tiens, est-ce que tu m'aimes ?», il a besoin d'être rassuré, donc il va, comme ça, poser toute une série d'actes. Parce qu'il a besoin d'entendre et d'être rassuré par rapport à nos sentiments envers lui. Donc c'est vraiment l'abandonnique classique. Mais ça peut vraiment aller très loin. Je me rappelle d'une situation avec un patient où sa compagne, qui souffrait de troubles de l'attachement, il était à peine sorti de chez lui, il n'avait pas fait 100 mètres en voiture, qu'il avait déjà un SMS avec « je t'aime »,« rappelle-moi »,« donne-moi des nouvelles », etc. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi caricatural que cela. Alors, un autre ordre d'attachement insécure, c'est vraiment l'attachement insécure détaché. Donc, c'est vraiment la personne qui, au contraire, c'est le contre-pied du premier, va faire en sorte de ne jamais montrer ses émotions. Pourquoi ? Parce que dans cette prime enfance, pendant son enfance, ça n'a pas été accueilli, et donc il ne savait jamais si il allait être bien reçu ou pas. Donc, il a pris le pli de rester en détachement de ses émotions, et de rester vraiment à distance afin d'éviter d'être rejeté, mis à l'écart ou abandonné.
Donc il ne va pas.
Oui voilà, il va vraiment éviter de montrer ses émotions et donc ça peut vraiment aller très très loin. Je me rappelle d'une situation avec un enfant où la maman les avait plus ou moins abandonnés, c'est-à-dire avait disparu pendant des mois. Et puis le jour où elle revient, l'enfant reste assis en train de jouer sagement en disant juste bonjour maman. Mais sans la moindre réaction, sans sauter dans ses bras comme ferait un enfant serait content de voir ses parents, vraiment pas d'émotion, juste bonjour maman et continuer à jouer parce que voilà, il savait pas du tout s'il pouvait être bien accueilli. Et alors le troisième type d'attachement insécure, c'est un attachement ambivalent, c'est-à-dire qu'il va prendre de temps en temps la forme du premier, l'anxieux, et de temps à autre du second, le détacher. Et donc, il va osciller sans cesse entre ces deux comportements en fonction de son état interne, c'est-à-dire vraiment de son bien-être intérieur, s'il se sent en forme, pas en forme, aimé, pas aimé, ou au contraire, un petit peu plus mis en danger. Et donc, il va osciller comme ça entre ces deux formes. Une forme d'attachement, par exemple, insécure, anxieux, ça pourrait être aussi toutes les formes de jalousie, par exemple. Donc, tous les jaloux qui sont anxieux de leur amour et que l'autre le respecte, etc. Et donc, il va être très, 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 très à la chasse du moindre symptôme ou du moindre indice qu'il pourrait y avoir quelque chose. Et donc, il va vraiment, qui peut vraiment se pourrir la vie et la tête par des scénarios qui va se faire à l'intérieur de lui-même.
Oui.
Voilà.
Et ma question était effectivement, est-ce qu'on est forcément l'un ou l'autre? Mais tu as déjà répondu. Ces comportements peuvent se mélanger, paraître à différents moments, peut-être avec différentes personnes. On peut être type anxieux avec ce qui rappelle la mère et plutôt détaché avec le père ou inversement.
Alors, normalement pas trop. C'est-à-dire qu'on va être soit anxieux, soit détaché, mais on a la troisième forme qui est l'ambivalent, qui, elle, peut osciller en fonction effectivement des circonstances. Mais si on est dans un attachement sécure, on n'a pas tout ça. Hein. Si je suis dans un attachement sécure, mes parents ont été présents, ils ont été raisonnablement accueillants dans mes émotions, ils m'ont expliqué ce que c'était qu'une émotion, ils me les ont nommées, hein, parce qu'on ne le connaît pas, ça ne vient pas ex nihilo, je veux dire, ça ne tombe pas comme ça du ciel tout cuit, il faut qu'on nous explique ça, ou il faut qu'on voit simplement que comment ça fonctionne dans notre famille, si les parents parlent de leurs émotions, les nomment, les citent, etc., ou pas du tout. Et si nos parents nous ont effectivement dit « je t'aime » ou « jamais », etc., nous ont pris dans les bras, nous ont materné ou paterné, ben, tout ça va créer cette sécurité. Et si je suis dans un attachement sécure, je me pose pas toutes ces questions. Je me sens bien avec moi-même, je sais que je suis un être aimable et aimé, et forcément dans un couple, dans une relation, qu'elle soit amicale ou plus intime, ben, je vais me sentir tout à fait à l'aise et à ma place. Par contre, si je n'ai pas reçu ces fameuses nourritures affectives primordiales, vraiment primordiales, ça va déclencher chez moi une série de comportements qui vont chercher à me rassurer ou à m'éviter des blessures. Je ne sais pas si tu te souviens, on parlait un petit peu de la dissociation. La dissociation, c'est un mécanisme de défense. On se coupe du moment présent, de la réalité. Alors, on peut se couper dans ses émotions, on peut se couper aussi simplement du ressenti ou de l'interprétation, ou simplement on n'arrive plus à se mettre à la place de l'autre, par exemple. Donc la dissociation, c'est un ordre, comment dire, la douleur, c'est une forme de dissociation qui peut être créée par une blessure, et pour l'éviter, ben, justement, l'attachement insécure détaché, ben, il se met à distance d'une blessure éventuelle et donc d'une douleur éventuelle en ne répondant pas aux appels émotionnels. Donc il ne va pas dire « je t'aime », par exemple, il va éviter. Parce qu'il ne sait pas, si en le disant, il ne risque pas de se mettre sous la coupe de l'autre qui risquerait de se moquer de lui ou de ne pas l'accueillir dans cette émotion-là ou de le rejeter.
Etc. Oui, ou abuser de sa confiance, de profiter de la situation.
Tout à fait, tout à fait. Donc il va rester à distance, il va dire « ok, moi je prends mes précautions ». Alors c'est inconscient, évidemment, hein. C'est pas un mécanisme conscient, c'est un mécanisme inconscient. Donc il faut vraiment garder ça en tête, parce que il faut pas imaginer que c'est une politique volontaire de ne pas montrer ses émotions. C'est vraiment quelque chose qui est instinctif, c'est devenu instinctif, hein. C'est vraiment quelque chose qui était conditionné, un peu comme Pavlov avec sa gamelle et la sonnette, et donc on a reçu des coups quand on disait nos émotions, on n'a pas été accueilli dans nos émotions, du coup, hop, je reste en retrait pour m'en protéger.
Oui, et c'est très profond, c'est pas volontaire, effectivement, comme tu dis.
Non, c'est très très profond, effectivement, parce que comme ça touche souvent la prime enfance, on a même repéré ce type de comportement dans ce qu'on appelle des empreintes préverbales, hein, les empreintes précoces, c'est-à-dire vraiment avant même que la personne ait la capacité de parler. Ça peut même être in utero, hein, donc vraiment même dans le ventre de la maman, puisqu'on partage évidemment toutes ses émotions, tout son ressenti pendant toute la grossesse. Donc si une maman était anxieuse pendant la grossesse, on peut vraiment vraiment avoir une personnalité qui a déjà été marquée par une certaine anxiété et donc qui pourrait souffrir de troubles de l'attachement, plutôt de type anxieux en général. Donc c'est vrai qu'il y a une série de d'éléments à prendre en compte.
Oui. Alors, dans ton expérience, comment prépare-t-on une séance EFT avec des personnes qui présentent ces troubles?
Donc, les premières questions à se poser quand on reçoit un patient, un client, c'est lorsqu'on fait son histoire de vie, hein, son anamnèse, c'est d'aller repérer si effectivement dans l'enfance ou dans les premières relations que la personne a eues, est-ce qu'elle s'est sentie en sécurité ou pas en sécurité. Et donc la sécurité, c'est vraiment quelques questions de base. C'est, ok, est-ce que papa, maman étaient présents, absents? Est-ce qu'ils vous accueillaient et vous recevaient avec vos émotions? Est-ce qu'ils vous les nommaient ou c'était pas accepté dans la famille? Est-ce qu'on se moquait de vous si vous avez des émotions ou pas du tout? Est-ce qu'on vous prenait dans les bras ou on ne pouvait pas se prendre dans les bras? On se serre la main, bonjour, bonjour papa, bonjour mon fils, hein, bonjour, bonjour maman, bonjour ma fille, ben, ou mon fils, etc. Donc c'est la première question. De là, on va essayer de repérer si dans l'histoire de vie, il y a eu d'autres événements traumatiques qui peuvent venir complexifier la situation. Et en fonction de ça, ben, je sais qu'il y a un ordre de traitement. Donc il y a un ordre de ciblage des événements à aller retraiter, à les déconditionner. Donc, ça veut dire que lorsque je prépare ma session, je dois déjà savoir si j'ai affaire à ce qu'on appellerait des traumas simples ou complexes. Donc, s'il y a eu un seul événement de vie difficile qui s'est passé, hein, je sais pas, un accident de voiture, par exemple, unique, mais qui viendrait s'appuyer sur une structure un peu plus fragile parce qu'il y a eu cet attachement insécure, et donc ça pourrait complexifier la situation, ou est-ce qu'il y a eu répétition d'événements de vie difficiles, y compris maltraitance, abandon ou agression diverses. Donc, c'est la première chose vraiment à repérer. Si je repère qu'il y a ça, donc la première question c'est, est-ce que dans ton enfance, papa, maman étaient présents, est-ce qu'ils étaient absents, est-ce qu'ils travaillaient beaucoup, ils voyageaient beaucoup? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont eu une enfance très chouette, que les parents étaient tout à fait ok avec eux, mais quand on questionne, quand on creuse un peu ça, on leur dit, mais ils étaient souvent présents ou ils étaient souvent partis? Ils travaillaient beaucoup ou ils étaient beaucoup là pour vous? Souvent les gens commencent à parler et disent, ben oui, papa était souvent parti. Enfin, c'était un super chouette père. Oui, il pouvait être un super chouette père, mais s'il y avait cette absence, ça a pu, et en général, cela a créé une petite fragilité, une faiblesse. Et donc, ça vaut la peine d'aller creuser à ce moment-là les comportements des personnes, des patients, des clients, dans leurs relations. Comment se comportent-ils avec leurs proches, avec leurs amis, dans leur famille, avec leur intime, avec leurs compagnons, leurs compagnes, etc. Et donc, effectivement, ce sont des questions très, très importantes à poser parce que le plan de traitement, donc la, l'ordre dans lequel on va devoir retraiter les situations, les personnes, les événements, est important et va être complètement différent d'un trauma simple. Hein, si vous travaillez sur un trauma simple, vous vous souvenez, en EFT, vous avez appris, on travaille le passé d'abord, donc on va rechercher l'événement le plus ancien en lien avec le problème, avec la croyance qui est associée au problème, et on va remonter le temps jusqu'au présent, puis de là, on va proposer à la personne de s'imaginer dans le futur, revivre la scène. Normalement, si je travaille dans cet ordre-là, ben, je ne peux pas me tromper. Si j'ai affaire avec quelque chose de plus complexe, et certainement avec des troubles de l'attachement, je ne peux pas aller dans le passé, parce que je vais d'abord devoir aller vérifier que la structure de la personne, c'est-à-dire les ressources internes à la personne, sont suffisantes. Et si ce n'est pas le cas, ça va provoquer toute une série de réactions, donc de mécanismes de défense, qui vont faire que la personne va essayer de se protéger de ce qu'elle ressent. D'abord, ça peut aller donc par certains ordres de dissociation, comme on appelle ça. Donc, par exemple, second ordre de dissociation, ce sont par exemple toutes les addictions. Je vais boire de l'alcool, je vais fumer, je vais manger, surmanger. Je peux avoir une hypersexualisation. Hein, je peux avoir une hyperactivité sportive, etc. Hein, donc, des mécanismes d'évitement, de stress intense, d'anxiété généralisée. Je peux avoir des amnésies, des dénis complets, des pans complets de ma vie qui disparaissent. Et donc, on peut repérer ça chez les personnes si, par exemple, elles ont peu d'accès à leur enfance. Est-ce que vous avez beaucoup de souvenirs de votre enfance? Et la personne vous dit, ben non, il y a non, très peu. Là, c'est en général pas bon signe. Ça veut dire que soit il y a eu un trauma dans la prime enfance qui pouvait être très violent, hein, ça peut être des maltraitances, des abus, soit c'est qu'il a pu y avoir justement cette insécurité de fond, ou évidemment une présence des deux. Donc là, il faut faire attention. D'accord. Et donc quand je prépare ma session, bien, je vérifie d'abord ça, et si c'est le cas, je vais travailler sur une situation présente où la personne déclenche cet abandon, par exemple, dit ben, je me sens abandonné, hein, ou au contraire dit ben, j'arrive pas à me connecter à mes émotions, je suis pas sûr que j'aime vraiment mon compagnon, ma compagne. Hein, pourquoi vous n'êtes pas sûr? Ben, je sais pas, j'ai du mal à ressentir mon corps, hein, des gens qui se coupent de leur corps, de leurs émotions. Oui. Donc là, il y a une préparation à faire.
D'accord. Et le travail spécifique avec les troubles de l'attachement? Donc, plutôt que d'utiliser ce modèle classique, disons, de passé, présent, futur, qu'est-ce que tu préconises?
Donc, on va devoir travailler d'un déclencheur du présent, donc prendre une situation qui active la personne. On va bien vérifier qu'elle est connectée à suffisance dans son corps et dans ses émotions. Si ce n'est pas le cas, on va devoir essayer de la reconnecter à ça d'abord.
Oui, c'est ça qui devient le problème, le premier problème à traiter, en fait.
Voilà. Parce que cette accessibilité au ressenti, c'est un mécanisme de défense. Hein. C'est une forme de dissociation. C'est-à-dire que la personne trouve ça tellement douloureux qu'elle se coupe. Donc l'idée, c'est d'imaginer qu'on doit avoir, c'est comme une fenêtre de travail. C'est un petit peu comme si vous deviez plonger en mer. Si vous mettez trop de plomb pour faire la plongée, vous allez descendre trop bas. Et là, ce serait par exemple l'abréaction, ce serait la montée émotionnelle trop forte, et donc on veut l'éviter. Ou si vous n'en mettez pas suffisamment, ben vous remontez trop, et donc vous vous coupez de vos émotions, hein, ou l'inverse.
Ça veut dire que nous, dans la séance de EFT, vous n'avez pas suffisamment de matière pour travailler efficacement.
Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de vraiment bien se remettre dans la situation, sans faire de tapping pour commencer, pour qu'elle puisse se reconnecter aux sensations physiques. Et quand elle a les sensations physiques, on va commencer simplement à aller stimuler, par exemple, des points d'acupression qui seraient en lien avec les émotions qui apparaîtraient. On va dire, OK, vous avez votre scène, votre image la pire, hein, vraiment le moment le plus difficile de cette scène du présent. Quelle est l'image la pire? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Dès que la personne émet des sensations dans son corps, nous, on obtient des informations. C'est par exemple, je vous rappelle que si vous faites de l'EFT avancé, vous savez que par exemple, si vous avez une situation au niveau du plexus solaire, c'est en général en lien avec deux méridiens que l'on va stimuler en EFT. Le méridien qu'on appelle le péricarde ou maître cœur, donc c'est le bord du majeur. Et l'autre méridien, c'est les reins, rein 27, donc c'est sous les clavicules en EFT. Et donc ces deux méridiens sont en lien avec la sensation qui se porte au niveau du plexus solaire et avec les sentiments d'impuissance ou d'incapacité. D'accord? Donc, le fait que la personne nomme des parties du corps va nous donner des informations sur les points stimulés en premier pour aider la personne à se reconnecter encore plus à ce qui se passe. Si la personne dit, je suis triste, je sens de la tristesse, hein, j'ai la gorge qui serre, etc., on va aller tapoter sur le point poumon. Le point poumon, c'est le bord du pouce. Pourquoi? Parce que le point poumon est associé aux notions de deuil, chagrin, tristesse. Si la personne vous dit, je ressens de colère, on sait que c'est en lien avec le foie. Le point foie en EFT, c'est sous les pectoraux, sous les seins. On va stimuler cette zone parce qu'on sait que c'est un lien direct avec l'émotion de la colère. Si c'est la rage, c'est vésicule biliaire, c'est le bord de l'œil, etc., etc., etc. D'accord? Mm-hmm. Donc, on va utiliser le corps pour obtenir des informations sur les émotions. On va les tapoter sur les émotions et les sensations physiques. Donc, on va dire, même si j'ai cette boule dans le ventre, par exemple, l'estomac, en allant tapoter sous l'œil, puisque c'est le point de l'estomac, hein, voilà, même si j'ai cette boule dans le ventre, je m'aime et je m'accepte, etc. Et puis, on va aller, par exemple, si il y a de la colère qui est là, on va aller sous les seins, sous les pectoraux, on va dire, hein, cette tension dans mon foie, ou cette tension de colère, ou tout ce que mon corps cherche à me dire avec ses tensions et avec ses sensations physiques, etc. Et donc, on va nommer l'image, la scène, et on va nommer les émotions et les sensations que nous repérons. Mais comme on n'est pas sûr, on va mettre des nuances. On va dire, peut-être que j'ai de la colère en tapotant sur le point du foie, ou peut-être pas. Peut-être que ce serait logique que je ressente de la colère, parce que j'étais tout petit, je me sentais complètement coincé et impuissant. Et si je dis impuissant, je vais travailler sur le bord du majeur, puisque c'est un des points liés à l'incapacité, à l'impuissance, hein, plexus solaire. Donc je vais aller tapoter sur le bord du majeur en disant, c'est impuissance. Puis je pourrais dire à nouveau, passer sous le point rein, sous les clavicules, c'est impuissance. Tout ce que c'est impuissance veut me dire, etc. Et on va faire comme ça quelques ronds pour reconnecter correctement la personne aux émotions et aux sensations. Mmh. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que pendant les rondes de tapping, des images vont réapparaître, d'autres scènes, d'autres sensations, d'autres émotions. La personne va se reconnecter. Et en fonction de ça, je vais accélérer le tapping ou le réduire. Alors, pourquoi est-ce que je pourrais accélérer le tapping ou le réduire? Comme j'expliquais cette fenêtre de travail, par exemple, si vous voyez que la personne a tendance à se couper de ses émotions et donc de son ressenti physique, je vais accélérer le tapping. Je vais tapoter beaucoup plus vite et je vais changer de point beaucoup plus vite et je vais changer de mot beaucoup plus rapidement. En gros, ce que je veux, c'est que je veux bombarder la personne d'informations et de stimuli en tapotant beaucoup plus rapidement et en changeant plus rapidement. Et normalement, quand j'accélère le rythme de tapping, je vais faire remonter les sensations physiques et les émotions. A contrario, si la personne commence à être trop dans ses émotions, je sens que ça devient un peu trop dur, je vais ralentir le rythme de tapping, je vais tapoter beaucoup plus lentement. Peut-être même tenir le point et faire respirer profondément, garder l'air un petit peu, expirer lentement. Et je vais dire les mots qui seront des mots beaucoup plus dans le corps que des scènes que l'on est en train de désensibiliser. Mmh. Comme ça, j'enlève la personne de toute cette rumination mentale, toute l'histoire qu'elle est en train, du film qu'elle est en train de se revivre dans le cerveau. Je la ramène juste dans le corps, Déjà, rien qu'en faisant ça, je la calme, mais en ralentissant le tapping en plus, je la calme encore un peu plus.
Et ça donc, peut être le moment de rappeler aux personnes de garder les yeux ouverts, de rester avec nous, de ne pas se perdre dans le film, justement.
Tout à fait, bien rester en contact, vous rappeler, etc. Et donc, normalement, ça, si je dois en revenir avec les gens, si je dois déjà dire aux personnes, réouvre les yeux, reste avec moi, c'est que je suis déjà trop loin. C'est que souvent, il y a déjà trop d'émotions, hein, et donc elle est déjà en train d'être complètement débordée dans ses émotions. Mais normalement, je peux me prémunir de cela, je peux prévenir cette situation si je ralentis le tapping et je reste plus sur les sensations physiques que je vais nommer plutôt que les circonstances de l'événement que je suis en train de retraiter. Comme ça, ça me permet de rester dans cette zone de travail, cette fenêtre de travail qui est plus confortable pour le patient. D'accord? Donc ça, c'est une des façons de reconnecter la personne et de commencer le travail. Une autre façon, c'est d'aller s'adresser à la partie en elle-même qui est touchée. Donc, par exemple, à l'émotion en elle-même. Donc là, ça va dépendre évidemment du patient. Ceux qui sont dans l'émotion, on va aller nommer la partie. Donc, par exemple, tiens, mais est-ce que tu peux observer, tout en faisant du continuing tapping, hein, donc du tapotement continuel, on va tapoter, par exemple, le bord des doigts de façon continue, ou je vais tapoter le point de méridien en lien avec l'émotion qui est nommée par le client. Hein, donc, comme tout à l'heure, j'expliquais, ben, si c'est, par exemple, une forme d'anxiété, je vais peut-être taper le point vessie, vessie 2, donc ce qui est le bord du sourcil, hein, côté du nez, par exemple. Je vais tapoter ce point-là. Si la personne est dans des ruminations mentales très fortes, des pensées qui reviennent tout le temps, ou des tocs, je vais tapoter le point rat pancréas, c'est celui qui est en dessous du bras. Hein, je vais tapoter pendant ce temps-là. Et puis, je vais demander à la personne de s'adresser à la partie qui est la plus activée ici et maintenant. Je vais dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi ici et maintenant? Mm-hmm. Et cette partie qui est, mettons, en colère, où est-ce que tu la représentes, où est-ce que tu la ressens dans ton espace personnel? Est-ce que c'est à l'intérieur de ton corps, à l'extérieur de ton corps? Donc, je vais l'aider à la visualiser. Et quand elle l'a visualisée, je vais simplement lui demander, OK, et qu'est-ce que tu auras envie de me dire? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle a besoin de partager, de déposer? Je suis curieux de mieux la connaître. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais essayer de parler en tant que thérapeute de ce que j'appelle mon self, donc c'est-à-dire de mon espace de présence à l'autre, qui est juste dans la compassion, et lui demander simplement de pouvoir déposer ce qu'elle a envie de déposer, juste pour que je puisse reconnaître ce qu'elle vit. Mmh. Et en faisant ça, hein, je vais évidemment provoquer tout un travail intérieur de prise de conscience de ce qui se passe vraiment, et souvent une prise de reconnaissance, c'est-à-dire que la personne ou la partie se sentant entendue va commencer à se désactiver, se désensibiliser. Et puis, dans un second temps, je vais demander au client lui-même, au patient lui-même, « Et toi, qu'est-ce que tu ressens pour cette partie de toi qui est en train de vivre ça ?» Le but étant d'essayer de voir si je peux la reconnecter à son espace intérieur à elle, son espace de self intérieur qui lui appartient, et que cet espace puisse dire « Je ressens de la compassion, par exemple, ou je ressens une grande compréhension pour cette partie. » Alors, vous allez voir que souvent, ce qui va d'abord se produire, c'est qu'il va y avoir d'autres parties qui vont montrer leur nez. La partie qui va peut-être être fâchée, qui en a marre, hein, de la petite partie qui se plaint tout le temps, ou de la partie qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler, parce que c'est beaucoup plus sécure pour elle de tout contrôler. La partie qui est fatiguée, tout ça, qui dit, moi j'en ai marre, ça bougera jamais. Donc, c'est toute notre petite voix qui se présente. C'est ce qu'on appellerait les inversions psychologiques, hein. Donc les petites croyances saboteuses qui se présentent, ce sont des parties. Vous imaginez que c'est comme si on avait une tribu à l'intérieur de nous qui porte chacune une émotion particulière et un comportement particulier, en sachant que chacune de ces parties n'a que pour seul objectif de nous protéger. Mmh. C'est pas de nous imaginer, c'est de nous protéger ou de nous éviter des douleurs qu'ils pensent qui vont être plus grandes si on continue à aller dans la voie qu'on est occupé à prendre. Donc, hein, donc, processus d'évitement, là, dans ce cas-ci. Donc, c'est clair qu'on va d'abord essayer de détacher toutes ces parties les unes après les autres pour réaccéder à cet espace intérieur qui est beaucoup plus serein et calme, et de cet espace intérieur, aider à la reconnexion de la personne avec lui-même, ce qui va normalement provoquer la guérison en tant que telle. Si la personne retrouve cet espace intérieur qui est présent chez tout le monde, souvent, beaucoup des pieds de table que Gary Craig explique avec les pieds de table de notre système vont tomber tout seul et la table va s'effondrer d'elle-même. Sans que j'ai besoin de tout retraiter. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai pas
D'accord.
besoin de tout.
Alors.
C'est un travail sur les parties.
Oui. Et parfois, le seul fait de laisser s'exprimer ces parties, qui sont peut-être opprimées depuis un certain temps, ça peut suffire pour qu'ils nous laissent tranquilles.
Alors, ça ne va pas suffire pour qu'elle nous laisse tranquille, parce qu'il va falloir s'en occuper, mais si on peut leur montrer que cet espace de self, donc cet espace de sérénité intérieure existe, alors ces parties vont pouvoir se reconnecter à cet espace, et du coup, elles vont se désensibiliser par elles-mêmes. Ou, avec notre aide, si ça ne se fait pas tout seul. Mm-hmm. Alors là, évidemment, on va utiliser le tapping et deux, trois petites choses que je pourrais peut-être te montrer lors de la démo.
Oui. Alors justement, allons-y. Est-ce que tu peux nous illustrer ça avec un exemple?
Mais avec plaisir. Donc, est-ce que je pense que tu as une petite situation peut-être qui toucherait ton enfance. Si tu as une situation qui toucherait ton enfance, où tu aurais pu avoir une forme d'insécurité, ben on peut peut-être explorer ensemble et voir si on pourrait faire une préparation de ce travail ou une partie de travail sur ce sujet-là. Est-ce que ça te
oui.
semble OK pour toi?
Oui, tout à fait. Je pense que je fais partie de cette minime minorité de personnes qui auraient des troubles de l'attachement, en effet. C'est pas courant comme problème, Yves.
Non, jamais, hein? Évidemment non.
Donc voilà, tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui a peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Génial.
Okay. Alors, si tu explores justement ton enfance, ça peut être la prime enfance, hein, c'est souvent dans les 6 premières années que l'attachement est le plus important, mais bon, après, ça peut encore évidemment aussi se déclencher, mais est-ce que tu as un événement, quelque chose, qui pourrait avoir une résonance pour toi?
Oui, quand je t'entends faire cet exposé, je m'identifie à un certain nombre de choses, c'est sûr, mais l'événement... je dirais majeur et peut-être premier qui me vient, c'est que je ne sais pas grand-chose sur ma naissance, mais je sais que j'ai passé quelques jours, il me semble, en couveuse, parce que j'étais beaucoup trop chétive, j'étais née un peu en avance, et il me semble qu'il y a eu une coupure à ce moment-là.
Alors, c'est très important ce que tu nommes là, parce qu'effectivement, hein, dans nos générations et dans les générations même qu'on suivit, maintenant, c'est un tout petit peu moins, mais maintenant, ils commencent à mettre certains objets. Par exemple, maintenant, dans certaines couveuses, ils vont enregistrer la voix de la maman ou du papa, et ils vont laisser passer la voix, comme ça, le bébé entend et continue à entendre la voix de la mère ou du père. Ou, si c'est des jumeaux, on va les mettre ensemble, par exemple, pour que justement, ils continuent à avoir cet attachement, hein, ce lien. Mais c'est vrai que il y a des générations de personnes où on les a enlevés, souvent sans même expliquer au bébé ce qui se passait, parce qu'on estimait pendant très longtemps que le bébé comprenait rien. Donc,
oui.
On enlevait, on n'expliquait rien, et on pouvait même les opérer, et sans expliquer ce qui se passe. Je me souviens d'une session d'ailleurs où j'ai traité un enfant qui avait été opéré à diverses reprises du cœur, et qui avait créé un stress, enfin qui avait généré un stress post-traumatique, dès qu'il arrivait près de l'hôpital, commençait vraiment à être hyper agité, pleurer, etc. Donc il reconnaissait dans ses premiers mois d'existence, tout à fait le milieu hospitalier, où il avait effectivement été opéré plusieurs fois du cœur. Donc on a travaillé sur ce type de trauma, on peut le faire. Mmh. Alors, ici par exemple dans ton cas, je te demandais si tu penses à cette situation, si tu penses à cette idée-là, parce que si j'entends bien, tu n'as pas un souvenir de ça, ce qui est normal, hein, puisque les souvenirs identitaires, ils apparaissent plutôt vers 5 ans. On a très peu de souvenirs avant nos 5 premières années, souvenirs de nous-mêmes. Hein, les souvenirs qu'on en a, c'est souvent des souvenirs où on se voit. Ce qui est évidemment pas possible, sauf si vous passiez votre vie devant une glace ou un miroir. C'est impossible. Donc c'est souvent des souvenirs qu'on a reconstruits. Mais
oui,
donc toi, ce souvenir-là, c'est un souvenir qui te semble reconstruit parce qu'on te l'a expliqué, ou est-ce que tu sens quand même qu'il y a une petite tension de fond, une petite anxiété de fond qui est là quand tu penses à ça?
J'ai l'impression que j'ai cette information, on ne me l'a pas expliqué, j'ai pas le souvenir pour me l'expliquer, c'est plutôt des petites bribes d'informations que j'ai glanées par ici, par là.
Ok.
Et donc, des commentaires du genre, tu dois être contente d'être là parce qu'on a failli passer toutes les deux, et sois heureuse.
Quand tu me dis ça, est-ce que tu as une image devant les yeux qui est là ou pas?
J'ai l'image reconstruite, effectivement, de ce tout petit bébé que j'ai dû être dans une espèce de bocal en verre.
Alors, est-ce que tu peux prendre cette image? Et je voudrais que tu observes dans ton corps ce que tu es en train de ressentir maintenant.
Il il me semble que j'ai le cœur qui bat plus vite. Il y a une espèce d'énervement, un mélange de colère, mais teinté aussi de tristesse.
Ok. Alors, tu vas tapoter, si tu veux bien, le bord du pouce. Hein, et tu vas répéter avec moi. On va commencer notre session et je préciserai chaque fois pendant la session un petit peu certains éléments. Donc, bord du pouce parce que c'est en lien avec la tristesse, le deuil, etc. Donc, tu vas juste dire ceci. Même si j'ai cette sensation d'énervement, mon cœur qui s'accélère à l'image de ce bébé dans une cloche en verre ou dans une bulle de verre.
Même si j'ai cette colère et cet énervement, quand je pense à cette image du bébé dans le bocal en verre.
Voilà, et cette tristesse qui est là.
Cette tristesse qui est présente aussi.
Je m'aime et je m'accepte.
Je m'aime et je m'accepte.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Quelquefois un peu plus.
De plus en plus. Heureusement.
Donc, et c'est tout à fait naturel que je puisse ressentir cette peur, cette tristesse, cette colère.
C'est tout à fait naturel de ressentir cette peur, cette tristesse, cette colère.
Parce que j'étais un tout petit bébé, je ne savais pas ce qui se passait, on ne m'a pas expliqué.
Parce que j'étais un tout petit bébé, on ne m'a rien expliqué, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Je n'ai pas de souvenir précis de ça, mais j'ai cette sensation, j'ai ce sentiment.
Je n'ai pas de souvenir précis de ça, mais j'ai cette sensation, ce sentiment.
D'un autre côté, ici et maintenant.
D'un autre côté, ici et maintenant.
Je ne suis plus tout à fait dans une cloche en verre ou dans une bulle de verre.
Je ne suis plus tout à fait dans cette cloche en verre, dans cette bulle de verre.
J'ai un tout petit peu grandi.
J'ai un tout petit peu grandi, malgré tout, contre toute attente.
Je m'ouvre juste à la possibilité.
Je m'ouvre à la possibilité.
Que je puisse simplement digérer les choses différemment.
Que je puisse simplement digérer les choses différemment.
Alors, tapote maintenant sous le sein, hein, sous les pectoraux, donc le point froid. Toute cette colère.
Toute cette colère.
Tout ce que peut représenter cette colère.
Tout ce que peut représenter cette colère.
Tout ce que mon corps cherche à me dire au travers de cette colère.
Tout ce que mon corps cherche à me dire à travers cette colère.
Tout ce que mon petit corps de bébé cherche à me dire à travers cette colère.
Tout ce que mon corps de bébé cherche à me dire à travers cette colère.
Donc, tapote un peu sous les yeux. Donc, point sous les yeux, le point estomac. Toutes ces émotions, toute cette angoisse, toute cette peur. Toutes ces émotions, toute cette angoisse, toute cette peur.
Toutes ces émotions, toute cette angoisse, toute cette peur.
Toute cette peur. Alors, tu tapotes les deux côtés à la fois, si tu veux bien, en même temps. D'accord? Et puis maintenant, on va tapoter de façon alternée. Donc, tu vas faire d'abord puis gauche, droite, mais toujours le même point, toujours l'estomac, d'accord? En tapotant moyennement, donc pas trop vite, pas trop lentement, juste moyennement. Voilà, toutes ces angoisses, toutes ces pensées, toutes ces sensations, toutes ces émotions.
Toute cette angoisse, toutes ces pensées, toutes ces émotions.
Voilà, hein. S'il y a des choses qui viennent, tu me le dis, puisque évidemment je ne peux pas te voir, donc, donc
oui.
Ce serait bien. Tu me demandes ce qui se passe, parce que j'entends que ta voix a changé. Donc, je viens un peu aux infos.
Oui. Ben, y a une colère nouvelle pour moi qui se présente. C'est envers les médecins.
On continue bien à tapoter, hein,
pendant ce temps-là. Je continue à tapoter sur l'œil.
Donc, tapote le bord de l'œil. Tapote le bord de l'œil. Donc, pour un vésicule biliaire qui est dédié à la rage.
D'accord, le frein de l'œil.
On va dire ça. Même si j'ai de la colère.
J'ai de la colère vis-à-vis de ces médecins.
Parce que quand même, quelle bande de nains de jardin.
Quelle bande de nains de jardin.
Hein? Comme s'ils ne pouvaient pas imaginer qu'enlevant un bébé à sa mère, ça pouvait créer de l'angoisse.
Comme s'ils ne pouvaient pas imaginer qu'enlever un bébé de sa mère pourrait créer des angoisses.
Ah là là. Enfin, je m'aime et je m'accepte.
Mais moi, je m'aime et je m'accepte.
Comme je suis.
Comme je suis.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
De plus en plus parce que j'ai grandi.
De plus en plus parce que j'ai grandi.
Et d'un autre côté.
Et d'un autre côté.
Ben c'est normal que j'ai vécu ça. Que j'ai vécu ces angoisses ou cette colère ou cette peur.
C'est normal que j'ai vécu ces angoisses, cette colère, ces peurs.
parce que je pouvais pas comprendre ce qui se passait, j'étais trop petite.
Je pouvais pas comprendre ce qui se passait, j'étais trop petite.
D'un autre côté, il y a quand même certains médecins qui ont un petit peu évolué.
Il y a quand même certains médecins qui ont un peu évolué. Bravo à eux.
Que les médecins me pardonnent. Donc, il y a de plus en plus de médecins qui sont ouverts à ce genre de choses.
Oui, il y a de plus en plus de médecins qui sont ouverts à ce genre de choses. Et je pense que si je naissais aujourd'hui, ce qui crée d'autres problèmes, effectivement, ça serait passé très différemment.
Ah oui, y compris maintenant, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui utilisent l'EFT, par exemple. Je m'ouvre juste à la possibilité.
Je m'ouvre juste à la possibilité.
Que je puisse garder plus de distance émotionnelle.
Que je puisse garder plus de distance émotionnelle.
Trouver un juste milieu.
Trouver un juste milieu.
Voilà. Donc, retapote sous les yeux. Ah là 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 là. La médecine à l'époque.
La médecine, les médecins de l'époque.
Voilà. Puis fais un nouveau sous les seins, le point froid. Ah là 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 là. Moi, petit bébé sous cette cloche, dans cette bulle.
Oh là 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 là. Moi, toute petite, tout bébé, sous cette cloche de verre.
Alors, le point rein 27, hein, donc sous les clavicules. Ce sentiment d'impuissance.
Ce sentiment d'impuissance.
Je ne savais pas exprimer ce que je ressentais. Je pouvais que pleurer.
Je ne savais pas exprimer ce que je ressentais. Je ne pouvais que pleurer.
C'est difficile pour moi d'expliquer.
C'est difficile pour moi d'expliquer.
Alors, on fait au niveau du pouce maintenant. Toute cette tristesse.
Toute cette tristesse.
Et si je pouvais garder plus de distance émotionnelle?
Et si je pouvais garder plus de distance émotionnelle?
On va faire le majeur. Et si je pouvais reconnaître que j'ai un tout petit peu grandi?
Et si je pouvais reconnaître que j'ai un tout petit peu grandi?
Je suis plus tout à fait impuissante par rapport à tout ça.
Je ne suis plus aussi impuissante par rapport à tout ça.
Ok. Donc, je voudrais que tu tapotes un peu le point karaté. Donc, c'est intestin grêle, hein, ici en l'occurrence. Puis, tu vas tapoter le dessus de la main, donc le point triple réchauffeur, qui est en lien avec la sécurité. Donc, on va tapoter ce point-là. Et je voudrais que tu inspires et respires calmement, profondément. Tu gardes l'air un petit peu, tu expires lentement. Et je voudrais que tu repenses à l'image de départ. Pendant que tu stimules calmement, lentement, le point de gamme, comme on dit, hein, donc... Point triple réchauffeur dans la petite vallée entre le petit doigt et le second doigt. Je voudrais que tu observes ce qui a changé dans ton image. Est-ce que l'intensité a bougé? Est-ce que c'est moins fort, plus fort? C'est neutre? Est-ce qu'il y a encore des sensations, des émotions? Comment tu te sens?
Non, je me sens beaucoup plus calme.
Ok.
Je ne me vois pas, mais j'ai un petit sourire là que je n'arrive pas à arrêter. Faudrait, okay. C'est pas sérieux de sourire devant tout ça, mais le bocal à l'envers a changé, et il est beaucoup plus confortable, douillet.
Okay.
Et je vais te dire, quand les médecins ne sont pas là, je me glisse dans la pièce et j'explique les choses à ce bébé qui est tout seul.
Ok, parfait, parfait. Alors, on va faire juste pour montrer une autre façon de travailler quand on n'a pas un accès par une image. Je voudrais que tu reviennes un peu à la partie de toi, ce qui resterait de la partie de toi, qui serait pas encore tout à fait à l'aise. Si tu peux t'y connecter. Parce qu'il n'y a pas tu peux. Est-ce que tu peux la ressentir?
Oui, je peux me connecter à ce qu'a dû ressentir ce.
Ok. Et donc l'émotion qui est là.
Je suis toute seule.
Et l'émotion qui est là, c'est quoi exactement?
Elle a froid et c'est l'impuissance. Parce qu'elle pleure, il n'y a personne qui vient.
Ok, donc tu fais le point rein 27, donc sous les clavicules. Donc tu vas taper de façon alternée, mais lente, d'accord? Assez lent.
Donc alternée gauche-droite, c'est ça?
Voilà. Alors pourquoi je fais assez lent? Normalement, je devrais faire un peu plus rapidement puisque tu es déjà assez bas dans les sensations. Mais comme on ne va pas faire une démo complète pendant une heure, je veux être sûr que tu sois tout à fait stable. D'accord? Donc on va stimuler plus ou moins lentement. Donc à peu près une seconde d'un côté, une seconde de l'autre, une seconde, à peu près ce rythme-là. Mm-hmm. Une à deux secondes par côté. Hein, voilà, une vitesse relativement lente. Je voudrais que tu viennes à cette partie. Je voudrais juste que tu demandes à cette partie, hein, ce qu'il serait utile que l'on sache d'elle. Qu'est-ce qui se passe pour elle? De quoi aurait-elle besoin, cette partie, par exemple, pour que nous puissions l'aider, que tu puisses l'aider, que je puisse l'aider? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qui serait important que nous puissions connaître d'elle? Et observe ce qui vient.
Mais j'ai la... Cette partie de moi exprime la certitude, la croyance que il n'y a que moi. Je suis toute seule et je ne peux compter que sur moi.
Ok. Est-ce que tu peux dire à cette part de toi que, en tout cas ici, pendant cet exercice et même par après si nécessaire, hein, je suis avec elle. Et que, voilà, dans la mesure de ce qu'elle a envie de faire et de ce qui est possible pour elle ici et maintenant, en tout cas moi je m'engage à pouvoir être avec elle. Est-ce qu'elle peut entendre ça?
Oui. Okay, oui, elle aime entendre ça.
Ok, donc qu'est-ce qui se passe pour elle?
Elle se dit que peut-être qu'elle n'est pas toute seule.
Ok, donc elle...
Et même si elle est capable d'endurer cette situation toute seule, elle a aussi le droit de se faire confiance aux autres malgré tout.
Ok, donc c'est pas mal de choses qui changent là. Et je voudrais que toi, tu me dis ce que tu ressens pour cette partie, quand tu l'entends dire tout ça. Qu'est-ce que tu ressens toi pour elle? Pour cette partie qui se sentait impuissante. Qu'est-ce que toi tu ressens pour elle maintenant?
Beaucoup de tendresse.
Ok.
Et elle a envie d'être là pour elle.
D'accord. Est-ce que tu peux lui exprimer ça? Continue bien à faire le tapping au niveau des reins.
Oui.
Ok. Tu peux lui exprimer ça? Est-ce qu'elle peut t'entendre cette partie-là?
Oui, elle m'entend, elle me regarde avec ses énormes yeux de bébé.
Et que se passe-t-il à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi pendant que tu l'entends et tu la vois? Qu'est-ce qui se passe là maintenant?
Je sens comme une connexion qui se fait, qui se refait.
Ok, alors tu peux stimuler le bord du petit doigt, l'auriculaire, hein, qui est cœur. Je voudrais simplement que tu stimules cette zone et que tu restes bien connecté avec cette sensation qui est là et ce sentiment de reconnexion qui est là. Et que tu observes juste ce qui se passe à l'intérieur.
Je me sens remplie, je me sens plus pleine.
Est-ce que tu peux voir s'il y a d'autres parties de toi qui seraient présentes et qui auraient besoin de pouvoir voir ça, qui seraient intéressées de se reconnecter avec cet espace intérieur qui est ton self, hein, c'est ton self qui est là. Vois un petit peu si tout à l'heure il y avait une partie fâchée, en colère, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle aurait besoin de pouvoir venir se connecter à cet espace? Ou la partie triste qui était présente aussi tout à l'heure, est-ce qu'elle aurait besoin de venir se connecter à cet espace? Donc, voilà, observe juste si elles sont là et si elles auraient besoin de ça, tu peux leur poser la question et observe à l'intérieur de toi si ça te parle, si ça résonne ou si ça ne résonne pas. Si ça résonne, ben tu le fais, si ça résonne plus, inutile de le faire.
Ouais, non, la tristesse, la colère sont apaisées.
Ok, c'est une autre partie.
Et quand tu parles de partie de moi, je vois la scène de cette pièce d'hôpital où il y a moi maintenant en connexion avec le bébé et j'ai comme la perception d'autres parties de moi qui sont dans la pièce mais qui nous regardent avec bienveillance et il y a juste le mot pardon qui flotte autour de tout ça.
Alors, je voudrais que de ton espace de sérénité là, dans lequel tu es là pour le moment, je voudrais que tu invites toutes ces parties qui sont là. Tu peux simplement les inviter à voir que tu es bel et bien présente et que tu es bel et bien présente en permanence pour toutes ces parties et pour toi-même. Et observe juste si ça résonne juste à l'intérieur, si ça résonne vrai. Dis-moi juste ce qui se passe.
Oui, je sens comme une grande disponibilité.
Ok, génial.
Donc, je crois qu'il y a des parties parmi les parties présentes qui se disent « Ah oui, ok, aujourd'hui c'était le tour de ce petit bébé là qui avait vraiment besoin de ça. Mais un jour, si c'est moi qui ai besoin, j'aurai le droit de demander aussi. »
Oui, tout à fait.
Et ça pourrait être à mon tour.
Voilà. Donc c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, Maria, c'est que tu viens de toucher à des ressources. Et ça, c'est ta ressource primordiale parce que ça, c'est vraiment ton espace de self. Et c'est de cet espace de self-là, lorsqu'on arrive à s'y reconnecter, que tous les troubles de l'attachement se dissolvent.
Mmh.
Parce qu'effectivement, cet espace est commun à tout l'être humain, à tout être humain. Donc, quelle que soit notre histoire de vie, quelle que soit notre histoire, c'est quelque chose qui est vraiment naturel chez l'être humain. Je voudrais juste citer ça parce que c'est un des derniers livres de Mathieu Ricard qui s'intéresse à l'altruisme. Je m'intéresse beaucoup à la compassion et à la présence. Et donc, il y a une recherche qui est nommée. C'est une recherche où ils ont demandé à des méditants de méditer soit sur l'empathie, donc empathiquement. Donc l'empathie, c'est cette faculté de se mettre à la place de l'autre dans ses émotions. Et à d'autres méditants, ils ont demandé de se mettre dans la compassion. Et la compassion, c'est non seulement cette faculté de se mettre à la place de l'autre, mais c'est aussi d'être dans une forme d'intention de faire quelque chose pour que l'autre puisse se sentir mieux. C'est pas l'aspect sauveur du thérapeute, hein, c'est pas à confondre avec ça. Eh bien, ils ont observé que chez les méditants qui méditaient sur l'empathie, les zones du cerveau qui s'allumaient, hein, ils ont fait des scans, des scanners, il y avait les zones de la douleur. Alors que sur ceux qui faisaient la compassion, les zones de la douleur n'étaient pas activées. Donc il y a réellement un plus à faire une méditation ou une connexion à cette compassion parce qu'elle évite d'aller activer ou entretenir des zones de douleur qui vont nous faire plus sensibles et plus réactifs à la douleur non seulement des autres mais aussi la nôtre. Et donc le self, c'est justement un espace où on est spontanément dans cette compassion sans la moindre attente, c'est un état. C'est vraiment un état. Je pense que c'est ça que tu as senti. Il y avait au début une petite intention, puis tu es rentré dans un état qui est un état de sérénité, de compassion et sans attente.
Oui.
Tu peux me confirmer ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
Eh bien voilà. Donc c'est pour ça que quand tu travailles sur ce type de thématique, on essaie de repérer cet espace-là. Et une fois qu'on l'a, on va essayer de le mettre de plus en plus en connexion, en lumière avec les parties qui sont des parties qu'on voulu protéger ou éviter, etc. Et quand la connexion peut se faire, elle va se faire de plus en plus naturellement. Tous les fardeaux, toutes les charges, tous les impacts émotionnels qu'on a pu enregistrer, hein, ils vont se désensibiliser naturellement et de plus en plus rapidement avec l'aide du thérapeute, mais aussi à partir d'un certain moment, la personne elle-même peut tout à fait être dans ce processus. Donc la seule chose que je vais t'inviter à faire, c'est que dans les jours qui viennent, je vais t'inviter à essayer de revenir dans cet espace par toi-même pour te montrer à tes parties. Ça veut dire simplement que si tu sens que des humeurs particulières, reviens dans ton espace et montre cet espace à l'humeur que tu peux avoir. Bon, évidemment, si c'est une humeur positive, pas besoin.
Oui.
Voilà.
D'accord.
En faisant ça, tu vas entretenir cet espace.
Oui. Oui, merci, j'ai bien envie d'y retourner.
Je comprends.
Merci à toi, Yves.
Merci, Maria.
Alors, justement, ça paraît peut-être simple quand tu le fais comme ça. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur comment tu te prépares à faire ce genre d'exercice, à faire ce travail, et quelle est l'importance du lien, de l'alliance thérapeutique pour travailler sur un trouble de l'attachement?
Bon, c'est clair qu'il y a plusieurs choses qu'il faut avoir déjà dans son escarcelle. Hein. Il faut avoir dans sa boîte à outils ou sa boîte à biscuits, il faut avoir quand même quelques munitions. Donc, c'est clair que c'est pas un type de travail à faire si vous êtes débutant. Il faut le faire vraiment si vous êtes déjà un peu plus avancé en EFT. Alors, pour être plus avancé, ben, faites-vous superviser ou faites des formations d'EFT avancées, je dirais au moins niveau 3, pour pouvoir apprendre tout ce type de travail. Ça, c'est certainement un des aspects. Des autres aspects, il y a des formations vraiment spécifiques sur le travail des parties qui font partie d'un courant qu'on appelle Ego State Therapy. On peut l'apprendre avec le MDR ou certaines familles. Il y a le système familial intérieur, IFS. Il y a thérapie centrée sur la compassion. Ce sont vraiment des outils qui permettent d'avancer aussi, de faciliter le travail en EFT avec le tapping.
Mm-hmm.
Si vous faites de la méditation, par exemple, en tant que patient ou en tant que thérapeute, Vous allez normalement vous connecter avec cet espace, cet état intérieur détaché des émotions. Vous pouvez vraiment rester hyper centré et présent à l'autre en pleine écoute. Donc ça, c'est aussi évidemment des exercices que vous pouvez faire pour vous y préparer. Maintenant, si vous adorez marcher en forêt et que marcher en forêt vous permet de vous reconnecter à la nature et de vous sentir particulièrement serein, c'est un état de cet ordre-là dont on a besoin. Donc si vous pouvez vous remettre dans cet état avant de travailler avec un patient sur qui il va falloir travailler sur ce type de choses, c'est évidemment un atout qui ne nécessite pas de faire 20 heures de méditation par jour. Hein. Donc il faut juste adapter, hein, il faut s'adapter à la réalité de notre quotidien. Donc moi personnellement, ce que je vais faire, c'est clair, je vais vérifier si l'alliance thérapeutique est assez forte. Si l'alliance thérapeutique est assez forte, elle va me permettre de passer par mon propre self pour témoigner de ce que je peux ressentir pour la partie qui vient de s'exprimer. Tout ça en faisant du tapping continuel. Si je vois que mon self ne passe pas, c'est-à-dire que le témoignage que je fais de ce que je peux observer de cette partie n'est pas accepté, c'est que probablement l'alliance thérapeutique n'est pas encore assez construite. Donc la confiance de base n'est pas suffisante que pour déjà commencer ce type de travail. Donc dans ce cas-là, je dois d'abord travailler sur l'alliance elle-même. Si j'observe que mon témoignage à partir de mon self, de cet espace que tu as reconnecté, passe, hein, comme je l'ai fait avec toi d'ailleurs pendant la session, et bien à ce moment-là, je peux à un moment lui demander, toi, qu'est-ce que tu ressens pour toi, pour cette partie-là? Donc j'essaie de voir si c'est une autre partie de toi qui se présente, ou si ça va être effectivement cet espace, hein, de curiosité, de compassion, de créativité qui va se montrer, et si c'est lui, ben, j'essaie évidemment de le mettre en lien avec la partie qui est blessée ou qui est en colère ou qui est activée pour justement pouvoir reconnaître et recréer ça. Donc moi personnellement, ça me demande donc une préparation simplement mentale. Hein. C'est clair que je ne dois pas être stressé si je commence ce type de travail. Je dois vraiment être tout à fait calme, serein. Et donc je peux le faire par des visualisations. Par exemple, une visualisation que j'utilise beaucoup, je fais de la cohérence cardiaque. Hein, je peux simuler des pressions pendant que je le fais. Et puis, je vais visualiser, par exemple, que j'envoie de la compassion à l'univers. Et donc, le fait de faire ça va me permettre de me reconnecter avec mon espace intérieur qui va me laisser moins en résonance avec ce que mon patient pourrait venir déposer. Je vous rappelle aussi qu'il est primordial pour moi, si vous observez que vous entrez en résonance avec votre patient, il est primordial d'aller voir ce qui vous active, vous. Parce que c'est que probablement il y a des petites casseroles à travailler chez nous en tant que thérapeute. Et là, je vais le faire ben, soit dans ma supervision avec mon superviseur, soit je vais aller le faire dans ma thérapie de fond, qui me permet justement de nettoyer toutes ces casseroles pour être de moins en moins en résonance, ce qu'on appelle un contre-transfert en l'occurrence, qui peut être positif ou négatif vis-à-vis de mon client. Je vous rappelle que les notions de transfert et contre-transfert, donc le client qui nous adore ou qui nous déteste, c'est tout à fait classique, c'est un processus, c'est un mécanisme dont il faut tenir compte, et pas que si je fais de la psychanalyse. Et le contre-transfert peut être également positif ou négatif. Ça peut être un patient que j'aime particulièrement beaucoup. Hein, à l'extrême, ça peut être le thérapeute qui sort avec son patient, ce qui est évidemment pas éthique et pas normal. Ou ça peut être aussi le contre-transfert négatif où mon patient m'énerve tellement que je n'arrive plus à travailler avec lui correctement. Simplement parce qu'il y a des parties chez moi qui ne sont pas travaillées, qui font que je m'active avec ce patient. Donc, ça, c'est ma responsabilité en tant que thérapeute d'aller les travailler, d'aller les nettoyer dans ma thérapie de fond ou en supervision avec mon superviseur pour voir justement d'où vient cette activation qui m'appartient, qui n'appartient pas à mon patient, mais qui m'appartient en propre.
Oui.
Et aller m'en occuper, aller la désensibiliser. Voilà.
D'où l'importance de conduire sa propre thérapie de fond, comme tu dis, et aussi de se faire superviser.
C'est clair, tout à fait.
Parce que ces histoires de transfert et contre-transfert, quand on est en plein dedans, on les voit pas forcément.
Non, il faut comprendre.
C'est peut-être plutôt le superviseur qui va dire que, oups, peut-être qu'il y a un petit risque. Est-ce que tu as pensé à ça?
Voilà. Voilà. Mais il faut aussi comprendre que sur ces matières-là, comme les troubles de l'attachement, c'est d'autant plus courant. Parce qu'évidemment, comme c'est l'attachement qui a été insécurisé, il peut vraiment avoir des personnes. Par exemple, l'attachement insécure, anxieux, il peut tout à fait avoir un attachement hyper, hyper positif vis-à-vis de son thérapeute, qui devient une sorte de béquille, hein, qui devient le papa ou la maman de substitution, voire l'amant de substitution. Et donc, c'est très, 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 très important que le thérapeute soit conscient de ça, pour justement pouvoir tenir un cadre. Parce que s'il ne tient pas le cadre, on peut vraiment avoir des abus. J'ai une situation en tête où je vois un lien thérapeute et client où le client finit par même pour envahir la maison du thérapeute. Il a les clés, le thérapeute a donné les clés, il a fait des travaux. Enfin, il y a des trucs au niveau déontologique qui posent problème parce que la personne est incapable de prendre cette distance. Et là, c'est le rôle du thérapeute de pouvoir dire stop. Ça, c'est en dehors du cadre thérapeutique et c'est plus acceptable parce que ça peut vraiment créer un empêchement du retraitement du problème chez le client. Et donc, c'est pas OK.
Oui. Il faut garder la distance juste.
Voilà, tout à fait.
Et avec des personnes avec ce type de trouble, est-ce que tu dirais qu'il y a un risque accru de transfert?
Ah, bien sûr. Justement, il y a d'autant plus de risques que cet attachement est insécure. Donc, il peut être négatif ou positif en fonction de ce qui se passe. Et donc, forcément, les thérapeutes ayant souvent quand même quelques casseroles à nettoyer, c'est pas pour rien qu'on devient thérapeute, c'est d'autant plus important d'avoir conscience de ces mécanismes-là chez nous pour ne pas entrer en résonance avec notre patient qui viendrait avec une thématique de cet ordre-là. Parce que sinon, on va se retrouver vraiment dans des jeux où on ne sera plus en état de travailler correctement avec le patient. Et si on n'est pas supervisé, on ne s'en rend pas compte du tout.
Oui.
Parce que, on n'expliquera pas les mécanismes et on ne les verra pas.
Oui. Eh ben, c'est passionnant tout ça, Yves. Merci beaucoup pour toutes ces pistes concernant les troubles de l'attachement. Nous sommes déjà à notre heure de présentation. On va devoir passer aux questions-réponses. Donc, ne quitte pas, Yves, reste en ligne. Et nous allons répondre aux questions des auditeurs dans quelques instants. Voilà, le chat est ouvert. Je vois tout de suite des questions par rapport au point. Quel point pour tel trouble? Pourquoi pas dans l'ordre? Nous allons vous mettre dans le chat et dans la page de réécoute un document qui explique les correspondances entre les points EFT et aussi REMAP. C'est un fichier PDF qui a été offert par Yves dans le cadre de ce congrès. Vous pouvez le télécharger, vous le trouverez dans la page de réécoute. Et bonsoir Lynn 33, merci. C'est vrai que je me fais cobaye et animatrice et technicienne en même temps. Évidemment, ce n'était qu'une démo, c'est une vraie problématique et j'étais tout à fait sincère, c'était pas un jeu de rôle. Mais bien sûr, j'espère avoir l'occasion de faire une séance plus approfondie pour vraiment travailler ça tranquillement parce que je ne peux quand même pas me détendre totalement sachant que vous êtes là. Mais j'ai été tout à fait bénéfique de toute façon et j'espère que ça vous a aidé aussi de voir comment peut se dérouler ce genre de séance. Et pour l'instant, nous avons la chance d'avoir Yves sous la main.
Oui.
Donc Yves, je vais rouvrir ta ligne téléphonique et comme ça, tu vas pouvoir continuer à nous parler et répondre aux questions.
Hello.
Hello Yves. Alors, qu'est-ce que tu vois comme question dans le chat?
Bon, il y a plein de questions, donc je pourrais évidemment pas répondre à tout ou pas comme ça, mais j'essaierai de le faire a posteriori sur le site dès que je peux. Je viens d'apprendre que Marianne n'était pas multitâche, donc c'est un mythe qui s'effondre pour moi.
Ah. Oui, au-delà de 3-4 tâches, il faut que je passe à la machine.
Oui, après, il faut pas laisser d'arriver à perfectionner, à passer 5-6 tâches en même temps.
Donc je me tapote.
Voilà, le 11 octobre, j'espère que tu pourras me faire une séance individuelle pour ça.
Hein? Pour toutes tes tâches.
Avec plaisir.
Pour toutes mes tâches, en toute sorte.
En coulisses ou sur scène.
Oui, on verra.
Alors, je vais relever quelques questions. Je les prends pas dans l'ordre, mais bon, pourrait-on prévenir, par exemple, les troubles chez les prématurés en faisant de l'EFT? Ben, évidemment, ça dépend un petit peu de ce qui se passe. Actuellement, les prématurés sont souvent, d'abord, les parents sont souvent dans la même chambre. Ils ont le droit, normalement, de toucher les enfants. En tout cas, il y a des soins. Donc, on évite déjà beaucoup de souffrance.
On dirait tout à l'heure, il y a quand même du progrès par rapport aux années 60.
Oui, voilà. Donc on évite déjà beaucoup de souffrance. Il faut parler à l'enfant. Il y a moyen d'enregistrer, mettre la voix pour déjà prémunir tout ça. Et effectivement, on peut aussi faire de l'EFT. Évidemment, il faut le faire très doucement, hein. Il faut aussi conseiller aux parents de le faire sur eux-mêmes, parce que si leur niveau de stress diminue, ça va évidemment aider très, très, très puissamment l'enfant, le bébé, à pouvoir gérer ses niveaux de stress, puisqu'il est très, très fort en mirroring, hein, en ressenti de ce que vivent les parents. Donc, c'est très, très important d'être attentif à ce que vivent les parents eux-mêmes. Donc, par exemple, voilà, je vois aussi, peut-on tapoter deux bébés à la fois, etc. Bon, mais bon, ils sont pas nés au même moment, si je lis bien la question, mais ça dépend un petit peu ce que vous entendez tapoter à la fois. Donc, il faut vraiment voir ce qui se passe.
Voilà, on est aussi limité à deux mains, souvent.
Oui, voilà, et puis il faut voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est clair, vous pourriez tapoter aussi sur vous-même, en fonction de ce que vous ressentez, vous, de la situation de vos enfants. À nouveau, je rappelle que dans le cadre des parents, si les parents gèrent leur stress ou éliminent déjà leurs sources de stress et de tension émotionnelle, ça va déjà fortement aider les enfants eux-mêmes à être bien plus calmes. Après, vous pouvez stimuler des points de façon relativement douce et souple, en leur racontant par exemple l'histoire du soir, ou en racontant un peu les événements qui se sont produits, mais en les réexpliquant avec des mots compréhensibles en fonction de leur âge évidemment. Et si ce sont vraiment des bébés, vous parlez normalement, mais vous stimulez des points de façon très très douce, et vous obtiendrez normalement des résultats assez étonnants. En tout cas, je les fais régulièrement avec des bébés ou avec des parents, et ça se passe très bien. Une question sur la cohérence cardiaque, etc. Bon, parce que j'en vois qu'il y en a plusieurs. Par rapport à la cohérence cardiaque, donc c'est vraiment une technique de respiration. Vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes. Logiquement, c'est un tout petit peu plus court l'inspiration par rapport à l'expiration. Donc, mettons 4 secondes et demie, 5 secondes et demie. Évidemment, on ne va pas aller calculer ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent des bulles, des gouttes d'eau, des papillons qui montent et qui descendent. Donc, à ce rythme-là, si vous respirez à ce rythme-là, on sait qu'il
y a même des applications gratuites pour l'iPhone.
Voilà, il y a Respire Relax sur l'iPhone. Si vous faites ça, vous allez au bout de 2 semaines, normalement, ramener votre cœur à battre un certain rythme. Et à ce rythme-là, le sang va pulser au niveau des artères et va aller stimuler des zones cellulaires qui vont aller activer le système endocrinien. Donc, ils vont faire que vous allez redévelopper de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, donc des hormones de relaxation. On sait par recherche que vous pouvez diminuer de 30 à 50% vos niveaux d'angoisse rien que par la cohérence cardiaque. Donc, c'est évidemment super important. D'abord, ça ne vous coûte rien. Respirer, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire, en tout cas si vous avez l'intention de vivre. Donc, simplement faites-le. Alors, on conseille de le faire 3 fois par jour, et vous pouvez évidemment ancrer cela en stimulant des points d'acupression, comme des points d'EFT ou des points de RIMAP, en utilisant ça comme un ancrage positif qui va évidemment renforcer les zones de mémoire positives. Je vous rappelle que le cerveau ne peut pas penser à la fois positif et négatif. Donc, si vous ancrez ces sensations positives et ces résultats positifs, eh bien, vous allez pouvoir les restimuler très rapidement en stimulant les points. Donc, vous pouvez, on va dire, joindre l'utile à l'agréable. Alors, autre question.
Alors, je vois une remarque de la part de Catherine, Yves, qui a trouvé la séance intense, mais qui n'a pas ressenti de fin de la séance. C'est vrai qu'on a, pour moi, c'était, ça s'est terminé parce qu'il y avait il y avait vraiment beaucoup moins de malaise.
D'accord.
Mais comment fais-tu dans une séance normale, on va dire, comment on se fait pour sortir de cet état et de cette connexion?
Et donc, si vous êtes dans cet état de sérénité, il n'y a pas à en sortir, vous êtes bien, vous pouvez rester dans cet état et vous allez simplement en sortir naturellement parce que vous allez être happé probablement par votre vie au quotidien, donc vous aurez des tâches à effectuer et vous allez rester juste simplement serein ou plus sereine.
À un moment donné, vous serez obligé de reprendre le micro en direct. Et voilà.
Oui, voilà, par exemple. Donc, mais, je veux dire, donc clairement, il n'y a pas de sortie à imaginer de cela. Par contre, si votre session n'est pas finie, donc ça, je vois l'autre partie, comme ce sont évidemment des choses très complexes, on n'a pas toujours l'opportunité de terminer ça en une session. Donc, quelquefois, ça peut prendre plusieurs sessions, voire même plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça dépend de l'ensemble des sujets à traiter et du nombre de pièces du puzzle à remettre dans le bon ordre. Donc là, par exemple, on va utiliser des outils de stabilisation. Et dans les outils de stabilisation, vous avez des outils relativement connus comme l'espace de sérénité ou l'espace de sécurité qu'on peut faire en hypnose, en sophro, ou qu'on peut utiliser avec du tapping. Donc, qui est un espace vraiment où on se sent à l'aise. On va aller se reposer sur des ressentis, des mémoires que les personnes ont, des souvenirs. Et on va leur demander de se remettre dans le souvenir. On va, par contre, leur demander d'être seuls dans l'espace où ils sont allés, même s'ils ont été à plusieurs à cette époque-là. En tout cas, ici et maintenant, on va leur demander d'être seuls. Pourquoi ? Mais parce que si on construit un espace de cet ordre-là, et que la personne y est accompagnée, et que par malheur, elle se dispute avec la personne, vous pouvez mettre en l'air plusieurs années de ressources, simplement parce que vous n'avez pas fait en sorte que la personne y soit seule. Alors vous verrez que pour certaines personnes, c'est difficile d'imaginer un endroit comme ça, et donc là, ça montre qu'il n'y a pas cet accès du self, il n'y a pas cet accès à cet espace intérieur, et donc là, ça va demander d'utiliser d'autres outils, comme la présence du thérapeute, l'alliance thérapeutique, éventuellement la cohérence cardiaque avec des visualisations de type compassion, pour vraiment se connecter avec un état, et ça peut prendre du temps. Mais cet état, une fois qu'il est acquis, est super important parce que il va permettre d'accélérer complètement le retraitement des différents problèmes. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'il y a des formations spécifiques aussi à ce genre de choses, sur le CEF, la compassion, thérapie centrée sur la compassion, l'IFS, hein, système familial intérieur. Voilà, il y a vraiment des formations spécifiques pour ceux qui se spécialisent là-dedans. Est-ce cela est-il valable pour toutes les rondes et toutes les difficultés à dépasser l'attachement ou autres situations émotionnelles? Bon, la question n'est pas tout à fait claire, mais effectivement, cette façon de travailler est valable pour tout. Donc, ce qui peut le plus peut le moins. Si vous travaillez de façon plus complexe sur des traumas simples, ben, vous allez probablement aller tout aussi vite, parce que si vous reconnectez au self ou si vous attaquez directement la racine du problème, logiquement le problème va tomber. Un trauma simple, c'est vraiment ultra facile à traiter, souvent une, deux sessions, c'est fini. Quand c'est plus complexe, ben vous allez voir que cette présence est très importante. Alors, je vois une autre question. Je ne me sens pas digne d'être aimé, mais je ne parviens pas à en identifier les raisons. Est-ce que l'EFT peut être utile? Est-ce long? Je dirais un mois, un an, etc. Bon, des contre-indications, il n'y en a pas. En tout cas pas à ma connaissance, si ce n'est qu'il faut que le thérapeute qui vous suive soit un thérapeute suffisamment formé et ou qu'il se fasse superviser pour être sûr qu'il travaille dans le bon ordre. Donc souvent, je me sens pas digne d'être aimé, je parviens pas à identifier les raisons. C'est effectivement des phrases assez classiques dans des troubles de l'attachement. C'est probablement dû à une parentalité qui a pu faire défaut. Quelquefois, on ne se rend même pas compte de ça. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont eu des parents géniaux et ils étaient probablement très, très aimants. Mais il peut y avoir des mots comme ça qui ont blessé ou qui ont créé des petites fragilités, des petites fractures, comme du style « Ah là là, c'est quand même idiot, mon chéri, hein, de faire comme ceci ». Donc, c'est vrai que là, il faut aller vraiment rechercher cette connexion avec votre état intérieur, et donc on pourrait partir d'un état émotionnel pour faire le travail. On va se focaliser sur les méridiens qui touchent aux émotions les plus présentes, comme la tristesse, donc par exemple poumon, donc c'est le bord du pouce en EFT, ou la colère, donc le foie, hein, qui va se trouver sous les seins, sous les pectoraux en EFT. On pourrait aller faire aussi toutes les pensées obsessionnelles, les ruminations, donc ce serait sous les bras, le point rat pancréasis. Pardon, si c'est en RIMAP, le point rat pancréas, sous les bras, etc. Mais c'est vraiment une question de travail. Donc, on irait chercher un déclencheur du présent, donc une pensée, une situation qui déclencherait la tristesse, et puis on irait travailler sur cette situation elle-même pour aller repérer toutes les croyances bloquantes, s'en occuper les unes après les autres, et essayer de retraiter l'information, c'est-à-dire de vraiment arriver à ce que vous ayez une vision différente de la situation, et on va essayer évidemment par ce biais-là de réaccéder à cet état intérieur de paix ou de sérénité en couplant dans la séance, par exemple, du tapping avec de la cohérence cardiaque, visualisation, qu'on peut faire aussi en tapping, pour reconnecter à l'état, puis on reviendrait sur le déclencheur du présent, donc comme si on faisait une pendulation, hein, avec une situation négative, une situation positive, pour vraiment aller enrichir le positif. Il faut imaginer que c'est comme des câblages, hein. Imaginez que vous avez câblé pendant des années le négatif. Ben, les réseaux neuronaux qui font les mémoires vont être énormes, hein. Ils peuvent représenter un pipeline, et puis votre réseau positif, il va être tout, tout petit, comme un bête câble de téléphone. Donc évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à raboter le câblage énorme et développer le câblage qui n'a pas été suffisamment, ici le positif, pour à un moment avoir une balance qui va s'inverser, qui va être beaucoup plus positive, parce que je vous le rappelle, Le cerveau ne peut pas penser à la fois négatif et positif. Donc on va essayer d'inverser cette tendance à voir la bouteille à moitié vide plutôt que la bouteille à moitié pleine. Donc voilà. Alors, question difficile. En cas de traumatisme, de maltraitance grave, coups, blessures, humiliation constante et le rejet de la mère et du père plus viol, oui, ça c'est clair, c'est un bon trauma complexe avec trouble de l'attachement. L'EFT marche-t-elle ou on est foutu parce que ce que je vis... Bon, alors, un, on n'est pas foutu.
Ah ben ça, c'est Angela qui pose cette question et puis...
Il y a déjà plusieurs réponses dans le chat. Non, on n'est pas foutu.
Les gens du chat répondent comme ils peuvent à Angela. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être apporter...
J'ai envie de dire, c'est vraiment le cas typique. Hein, ça fait partie des choses que j'ai en traitement régulièrement. Donc, ça va... Ça va probablement être long, quoique, hein, ça dépend vraiment de la personne. Si la personne est encore en vie maintenant, c'est qu'elle a une capacité de résilience, une capacité d'adaptation, son système l'a amené à survivre. Et donc ça, ce sont des atouts, ce sont vraiment des ressources. Alors même s'il y a une partie qui voit tout en noir ou qui voit les choses de façon difficile, il y a quand même aussi cette pulsion de vie qui est là. Et donc ça, c'est un atout majeur et je voudrais déjà féliciter... Et en tout cas, conscientiser Angela que c'est loin d'être foutu. Ou sinon, elle ne serait plus là depuis longtemps.
Donc, d'ailleurs, elle dit, tu vois, Yves, elle dit, j'ai réussi déjà à accepter ces émotions fortes et gagner en énergie vitale et joie. Mais dès que je me sens en insécurité matérielle, les émotions de l'enfant traumatisé en moi ressurgissent et j'essaie de les accompagner avec patience. Y a-t-il d'autres voies pour aider plus?
Oui, il y a déjà un travail de fait.
Mais donc, c'est vraiment l'illustration même du travail que j'ai fait avec Maria. Donc, on va chercher à aller travailler sur le déclencheur du présent, donc cette insécurité financière. On va aller repérer les parties de la personne qui sont activées, accéder à l'enfant blessé, mais il y aura probablement dans le chemin d'autres parties qui vont avoir peur d'y aller ou qui vont essayer d'éviter le fait d'y avoir accès. Donc, ça peut être des formes de dissociation, ça peut être des formes de phobie, d'addiction, etc. Et on va avoir, à côté de ça, si j'utilise le vocabulaire IFS, des managers qui vont dire, attention, hein, ça c'est trop lourd, hein, je me coupe, ou je me mets à distance, ou je ne te fais pas confiance à toi, là, le thérapeute, pour y avoir accès, ou je ne reconnais pas cet espace intérieur de self, parce que, enfin, pourquoi est-ce qu'il n'était pas là avant? Et donc, évidemment, c'est tout un système qui s'est mis en place, dont le seul but est de protéger la personne, et ici Angela. Et évidemment, nous, ce qu'on va devoir faire en tant que thérapeute, c'est essayer de démêler les intentions de ces parties, qui sont toutes en général positives, pour les amener à pouvoir faire de la place et réaccéder à ce self qui n'a jamais disparu, qui a toujours été là, mais qui est complètement caché par tous ces événements de vie. Et donc évidemment, ça se fait très délicatement. On ne va pas dans le passé dès le départ, en tout cas on va essayer de l'éviter. Pourquoi? Mais parce que ça risque d'être trop lourd et trop difficile. Donc il faut y aller... on va dire petit à petit, mais si on réaccède à cet accès au self, hein, si on réaccède au self, les choses après peuvent aller assez vite. Donc le temps ne veut rien dire dans ce type de travail, c'est vraiment la capacité de réaccéder à ce self et la confiance qui va se faire aussi au départ entre le thérapeute et le patient, parce que au mieux cette alliance thérapeutique se fait, cette alliance de travail se fait, au plus vite évidemment on va pouvoir utiliser le self du thérapeute temporairement, pour pouvoir s'appuyer et tenter de réaccéder au self du patient lui-même. Donc ce sont des choses qui ne sont pas simples, c'est vrai, mais ce sont vraiment des choses qu'on peut travailler et de façon très efficace. Alors, le fait voilà, de vivre...
Angela remercie et dit que ça fait déjà beaucoup de bien d'entendre ça.
Eh bien, donc ça Angela, je voudrais que tu sois consciente que ce que tu ressens là, c'est probablement une de tes parties qui se calme. Et je pourrais juste te dire, que ressens-tu pour cette partie qui se calme? Si je te pose cette question et que dans ton moi intérieur, dans ton self intérieur, tu ressens de la compassion ou tu ressens une énergie de curiosité ou de compréhension, de clarté, etc., c'est du self. C'est déjà des qualités du self. Et si tu connectes à ça, eh bien, tu peux déjà essayer simplement de mettre ces parties en rapport l'une avec l'autre. Enfin, c'est pas des parties, c'est cet espace intérieur avec cette partie en rapport l'une avec l'autre. Et normalement, tu vas déjà observer qu'il y a d'autres choses qui vont bouger, qui vont te faire beaucoup de bien. Alors, lorsque nous n'arrivons pas à visualiser, passez-vous par un autre sens ou bien faut-il que l'autre arrive à visualiser. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser, s'ils ne sont pas visuels, bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de ressentir ce que ça ferait pour eux d'offrir cet amour inconditionnel à l'univers, par exemple, ou petit à petit à eux-mêmes, etc. Et donc ça passera par le ressenti, c'est juste une question de vocabulaire, on adaptera le vocabulaire au canal de référence du client ou du patient. Alors, comment faire pour pardonner une épouse qui m'a trompé 3 fois, qui demande le divorce, bon, qui m'accuse d'harceler psychologiquement, etc., etc. Bon, là, évidemment, bon, c'est pas simple. Bon, d'abord, il faudrait démêler l'histoire du patient, donc déjà voir un petit peu ce qui se passe exactement, parce que il faudrait voir ce qui active cette personne à porter toutes ces accusations. En fonction de ça, il faut aller voir si cette personne vit réellement ça à l'intérieur d'elle, auquel cas il faut pouvoir à elle de faire un travail sur elle aussi pour justement pouvoir peut-être démêler le vrai du faux, hein, le ressenti de ce qui se passe. Ou alors c'est peut-être aussi pour d'autres raisons qui sont plus manipulatoires, et donc là, bon, évidemment, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir répondre à cette question. Par contre, pour vous, ce qui est important, si vous ressentez une forme de rejet, hein, d'incompréhension, vous pouvez effectivement essayer d'aller rechercher à l'intérieur de vous les parties qui sont activées et aller voir quelles seraient les qualités dont elles auraient besoin pour pouvoir vivre les choses différemment et essayer de voir si dans votre environnement ou dans votre histoire de vie, vous avez ces qualités qui ont été rencontrées, soit parce qu'elles sont représentées par des personnes qui ont pu illustrer, je ne sais pas moi, des qualités de compréhension, des qualités d'amour, ou si vous pouvez vous envisager de reconnecter avec ce type de qualité. Si c'est difficile de le faire déjà par vous-même, en tout cas, je vous conseillerais de vous faire accompagner, parce que la situation me semble quand même assez délicate. Et donc, ça me semblerait... Enfin, voilà, l'EFT est un outil d'autotraitement, mais c'est un outil d'autotraitement qui ne permet pas d'autotraiter tout. Hein, si vous êtes sur des sujets trop sensibles, on ne peut pas être juge et partie. C'est très compliqué de faire ça. Donc, on a besoin quand même d'un certain recul. Je vous conseille de vous faire accompagner par quelqu'un qui est un peu expérimenté et Noël ou Maria ou Valérie, etc. peuvent vous donner des noms ou vous conseiller des sites sur lesquels vous pouvez trouver des thérapeutes correctement formés si vous cherchez une aide plus précise.
Ça dépasse le cadre d'une formation niveau 1, niveau 2, en EFT, on est bien d'accord?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
C'est vraiment des formations plus pointues, plus poussées et oui, c'est vraiment, c'est plus du coaching, c'est vraiment de la thérapie, et il faut avoir été formé pour accompagner ce type de cas.
Alors, je vois une question là qui est assez qui est assez intéressante. Peut-on guérir d'une envie de téter, hein, privée d'amour maternel, d'une soif d'affection? Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question, parce que l'envie de téter, ça peut être aussi simplement en lien avec un réflexe archaïque ou primitif qui n'aurait pas été inhibé. Donc vous savez que pour naître, pour faciliter la naissance et la sortie de l'utérus, etc., eh bien le bébé acquiert des réflexes qu'on appelle des réflexes primitifs ou archaïques qui doivent s'inhiber après la naissance. Donc le réflexe de succion, hein, le fait de téter, est un réflexe qui est en lien aussi avec notamment l'entraînement des sphincters. Donc par exemple, il faudrait savoir si cette personne a eu tardivement des pipis au lit, ou donc l'énurésie, etc., ou a tendance encore à mâchouiller des crayons et des tas de choses comme ça, eh bien c'est peut-être simplement ce réflexe archaïque. Il peut y avoir peut-être aussi une trace de troubles d'attachement, mais ça, il faudrait voir dans l'histoire de la personne comment elle vit ses relations. Mais en tout cas, s'il y a ces symptômes-là, il faut simplement... il y a un truc en général très simple à faire. Il faut acheter une paille qui est complètement tarabiscotée, hein, qui est emmêlée, et il faut sucer des liquides plus épais, et il faut le faire pendant plusieurs semaines. Et alors, il y a également des personnes qui sont formées en kinésio à traiter ce type de sujet. Et donc là, ça vaudrait la peine d'aller faire une ou deux sessions, peut-être plus, pour juste traiter ça, et vous pourriez être surpris des résultats qui ne seraient pas nécessairement des troubles de l'attachement, mais simplement ce réflexe archaïque qui n'est pas inhibé correctement. Alors, qu'est-ce que je vois encore?
Alors, on va prendre une dernière question, Yves, et malheureusement, il va falloir fermer la salle. Mais
alors,
oui, on va les mettre de côté.
Donc, est-ce que vous demandez à vos patients de continuer à se tapoter entre deux sessions et quels conseils leur donnez-vous? Alors, moi, personnellement, je le fais, mais je suis très prudent sur la façon de le faire. Alors, pourquoi? Parce que vous allez, surtout sur ce type de sujet, vous allez avoir beaucoup de patients qui seront totalement incapables de s'occuper d'eux au début, entre deux sessions, même s'ils le veulent. Et donc, si vous leur proposez de le faire tel quel, ils risquent de se culpabiliser, de ne pas y arriver. Et donc, ça devient finalement contre-productif. La personne, au lieu de l'aider, elle commence à se charger encore plus. Donc, quand je le fais, la façon dont je le fais est la suivante. Je leur dis, voilà, écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de vous connecter. Donc, vous pouvez essayer de faire du tapping entre deux sessions et je leur propose de faire différents exercices de tapping ou de visualisation, de cohérence cardiaque. Et je leur dis, voilà, de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez me donner une indication sur quoi je dois commencer à travailler pour pouvoir mieux vous aider, mieux vous traiter. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est pas un souci. Moi, ça me donne des indications très précieuses pour savoir comment je peux travailler et si vous avez déjà certaines ressources ou si je dois plus m'adresser au self au départ. Et si vous y arrivez, sans forcer, parce qu'il ne faut surtout pas forcer, eh bien, dans ce cas-là, ça me donne une indication sur les ressources que je pourrais déjà travailler. Mais en tout cas, vous ne forcez pas. Si vous sentez que c'est OK pour vous, faites-le. Et alors, on va accélérer le processus hein, et vous allez renforcer les ressources ou l'accessibilité au self qu'on travaille en début de session ensemble. Mais si vous n'y arrivez pas, ça me donne juste une indication pour pouvoir mieux travailler avec vous. En faisant comme ça, on déculpabilise les personnes. Quoi qu'elles fassent, ça va nous aider effectivement et réellement pour la structure, le plan de traitement de la session. Hein. Je vous rappelle que le plan de traitement est très important. On ne va pas dans le passé, par exemple, sur ce type de sujet, en tout cas pas au départ. Et donc voilà, donc c'est super riche, et comme ça, on ne risque pas de créer un trauma supplémentaire, ce qui serait évidemment pas la meilleure idée du monde. Voilà.
Mm-hmm. Noël, tu avais vu une dernière question?
Une dernière question, peut-être, Yves, c'est Saïda qui la pose. Je ressens très facilement un sentiment d'abandon en lien avec mes sœurs. J'y ai souvent été
dépendante
de leur approbation et amour, jumelles plus grandes que moi. Là, on est presque en rupture. J'ai profondément le sentiment qu'elles m'ont abandonnée.
Oui, je vois. Donc, comment je construis mes rondes de tapping. Ouais.
Voilà.
Bon, mais voilà. On est dans un des cas où je dis toute seule, je ne pense pas que vous puissiez sortir de ça. Par contre, vous pouvez soulager déjà, ça c'est certain. Alors, si vous êtes partant pour faire du tapping, je pense que je vous conseille vraiment d'aller trouver sur YouTube une de ces fameuses sessions de cohérence cardiaque. Et pendant que vous tapotez, je voudrais que vous tapotiez sur simplement l'amour inconditionnel. Vous faites simplement en tapotant tous les points, en imaginant l'amour inconditionnel qui sort de votre cœur et qui va inonder l'univers, vos sœurs, vous-même aussi évidemment. Et si vous sentez que ça se fait et que c'est OK de le faire pour vous, c'est-à-dire que vous ne sentez pas qu'il y a des résistances trop fortes, bien vous le faites le plus souvent possible. Si vous sentez qu'il y a des mini-résistances, bien vous allez les traiter comme vous feriez en EFT de façon classique. Donc on va faire du recadrage. Et dans les documents qui sont à votre disposition, vous avez le fameux recadrage en 5 points. Je vous conseille de l'utiliser. Donc par exemple, ça serait ceci. Même si j'ai une mini-résistance à envoyer de l'amour inconditionnel peut-être à moi-même ou à mes sœurs, je m'aime et je m'accepte plus ou moins. Et c'est normal que je puisse avoir ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles m'ont laissé tomber ou qu'elles ne s'occupent pas de moi et moi je les aime et que j'ai l'impression qu'elles sont dans leur bulle de jumelles et que moi j'en fais pas partie. Mmh. Donc il faut reconnaître ce qui se passe. Mais d'un autre côté, d'un autre point de vue, je ne suis plus tout à fait ce bébé ou cette petite fille que j'étais il y a encore quelques années. J'ai grandi, j'ai appris à faire des tas de choses par moi-même et j'ai quand même aussi reçu de l'amour à certains moments. Je ne suis pas toute seule, toujours isolée. Je vais juste m'ouvrir à la possibilité que je puisse simplement garder une distance émotionnelle et trouver un juste milieu. Et vous tapotez sur ces phrases-là en continuant à les tapoter et puis en continuant à faire cette visualisation. Si vous arrivez à vous connecter à cet espace intérieur de paix, après, la seconde phase, ce serait de vous connecter de cet espace de paix, tout en continuant à tapoter, à l'image de vos sœurs et continuer à leur envoyer à elles hein, cet amour inconditionnel. Et puis à vous-même toujours. Et puis vous allez faire comme ça des allers-retours entre la cohérence cardiaque, la respiration avec cette visualisation et le tapping avec l'image de vos sœurs et de vous-même. Déjà, rien que comme ça, normalement, vous allez pouvoir stabiliser, en tout cas, le niveau de la relation, en tout cas, la blessure. Et sur les points à tapoter, je vous conseille de tapoter, évidemment, le point poumon, donc le bord du pouce, le point foie, donc en dessous des pectoraux, du sein, en dessous des bras pour tout ce qui est rumination, etc. Et également le point rein, donc en dessous des clavicules, et le point du majeur, donc le point maître-cœur, parce que c'est le rein et majeur, donc maître-cœur, sont en lien avec toutes les sensations d'impuissance et d'incapacité. Donc c'est en lien avec le fait de ne pas pouvoir se sortir du problème. Donc ce sont 5 points, par exemple, déjà à stimuler, qui risquent de bien, bien vous aider. Voilà.
Merci infiniment, Yves.
Merci beaucoup, Yves.
Merci beaucoup. Les gens qui veulent avoir des renseignements sur les formations d'Yves, c'est sur la page de réécoute. Il y aura les informations. Vous pouvez laisser des commentaires pour Yves et Yves vous donnera les références de son site internet, de son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter et être en contact avec lui.
Voilà, avec la petite réserve que demain matin, tu pars pour les États-Unis, Yves, je crois.
Oui, je vais au congrès de l'ACEP, donc l'Association internationale de psychologie énergétique. Donc je vais faire une mini présentation de logosynthèse. Et je vais retrouver d'ailleurs Jean-Michel Guret, Marion Blic, enfin quelques amis. on va en profiter pour travailler. Voilà, et pour faire quelques recherches.
Tu auras du mal à aller dans la page de réécoute.
Mais on les mettra
demain,
pour toi.
On mettra la page de ton site et tout
voilà,
ça.
Voilà, mais je ferai tout pour répondre aux questions. En tout cas, là, j'ai aussi demandé à Céline d'y avoir un accès. Donc, si vous envoyez à Céline, Noël ou Maria, ouais. Céline pourra en tout cas répondre déjà à certaines questions. Et moi, je viendrai dès que je peux, je viendrai compléter les questions. Et voilà. Et Céline pourra donner aussi éventuellement un contact.
Voilà, mais de toute façon, les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, on va leur faciliter la tâche et leur donner tous les éléments pour se faire.
Ok, super.
Merci infiniment, Yves. À très bientôt.
Et gros bisous pour Sabrina, que j'embrasse fort.
Oui, merci et bon voyage.
Et bon voyage à tous les amis là-bas.
Bisous. Ciao, ciao.
Rapportez-nous plein d'informations là-bas.
Yes.
Merci.